avec des pinceaux très très fins et très très doux, effacer les premiers coups de pinceau pour estomper, si vous voulez, les traces. Et une fois que vos couches sont sèches, hein, alors ça se fait couche par couche, hein, on peut avec des médiums, et notamment des médiums à l'huile, faire ce qu'on appelle des glacis ou des jus transparents, qui vont faire par exemple des films colorés très très délicats, très fins, qui vont effectivement travailler sur la transparence, comme si c'était des couches et des couches de peinture qui se voyaient les unes à travers les autres. D'où un effet de profondeur des tons et parfois une délicatesse des nuances, puisqu'on peut se permettre, c'est un peu comme si on était des filtres, si vous voulez, hein, et on peut unifier aussi les rendus. Alors, on peut se balader sur cette peinture. Alors, autre chose qui est typique, sur le foyer, etc., c'est que vous avez beaucoup de choses qui sont typiques des arts du Nord. Par exemple, l'orfèvrerie, au sens strict. Hein, l'orfèvrerie, l'art du bijou. Hein, on sait que les grandes villes de Flandre, et encore maintenant, Anvers, une grande richesse d'Anvers, c'est encore la joaillerie, et puis les tissus, les textiles, les broderies, etc. Toutes les draperies, les drapés, les dentelles, qui sont aussi des spécialités de multitudes de commerçants flamands et juifs, qui aussi ont fui, alors déjà le 15e siècle, et plus tard ça sera encore plus vrai, quand ils seront chassés d'Espagne, une bonne partie des juifs qui n'ont pas le droit de posséder des terres, donc se concentrent sur ce qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire sur eux, c'est-à-dire bijoux et tissus. Et donc tout ce qui est broderie, textile, cuir, maroquinerie, joaillerie, va être aussi un art, et ce sont des pratiques artisanales, très répandues par des fortes communautés juives en Flandre. Et on retrouve dans les époires d'Olfini, on retrouve presque toujours dans la peinture avec des peintres flamands, ce qui fait la richesse aussi de ces communautés, c'est donc orfèvrerie et aussi l'art du tissu, hein, puisque vous avez là les tissus des fourrures, alors là aussi les fourrures, les fourreurs juifs, etc., donc toute une tradition très importante, et que l'on voit dans les deux manteaux ici. Hein. Donc, et là encore un tapis, alors, tapis de soie, vous pouvez y aller.
C'est
représenté, alors là aussi en perspective, et ça c'est l'ordinateur qui n'est pas assez bon, la définition n'est pas assez bonne, puisque normalement on voit pas, il n'y a pas de petits pixels. Hein.
Elle a ôté ses chaussons.
Alors elle aussi a ôté ses bisques de stock, mais ils sont dirigés,
ils sont dirigés vers le coffre, hein, vers l'intérieur.
Alors la taille du tableau, il est à peu près grand comme ça. Il est à la National Gallery, et voilà. Alors, il y a beaucoup de choses, évidemment, à dire. Donc, vous voyez, il y a une grande cohérence spirituelle, et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est qu'on s'inscrit non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, avec la date précise. Donc, on n'est plus du tout dans des représentations de figures atemporelles, ou mythologiques, ou mythiques, ou religieuses. On est vraiment dans le temps réel. Et donc cette espèce de témoignage de la réalité, ce point dans l'espace et dans le temps, qui d'un coup devient aussi cette espèce de point de fuite, point de présence avec la date, la signature, c'est aussi une des premières fois qu'un peintre, on est quand même au début du 15e siècle, s'affirme aussi comme un personnage important, hein, de la scène, y compris se met en scène de façon distancée.
Excusez-moi, oui, une petite question qui m'interpelle. Pour le regard, les regards, ah, il ne la regarde pas, c'est par la pudeur.
Alors, il y a une histoire du regard, alors on verra. C'est que le regard direct, c'est quelque chose qui va être long à mettre en place.
Oui. Le regard interne. Pas terminé pour le moment.
Ça. Alors, non, ça ne se fait pas. Alors, on verra que Van Eyck utilise beaucoup le regard, notamment dans la Vierge de Chancelier Rollin, parce que Rollin voit la Vierge, mais la Vierge ne le voit pas. Donc, c'est quand même pensé, cette idée. Alors, c'est aussi vraisemblablement l'idée d'arrêter le temps. C'est-à-dire qu'on est dans un point du temps, mais on est aussi dans un universel, puisqu'il y a la naissance à venir, il y a la religion, il y a la lumière. Alors, c'est ça qui est très subtil, c'est qu'on est à la fois à un moment et à une date précise. Hein. Donc, on peut savoir, y compris, on pourrait presque savoir, vu l'ombre et la lumière, on est dans une lumière réelle, cette fois-ci, presque climatique. Hein. C'est qu'on est dans un instant aussi du temps, de l'atmosphère, c'est presque atmosphérique. Et ça, c'est aussi remarquable. Alors, je reviendrai évidemment sur cette peinture. Les couleurs, je vous assure, alors ça aussi, hein, c'est des peintures, je crois, les peintures de Van Eyck, je crois qu'elles n'ont jamais été rénovées, restaurées. Je crois qu'elles n'ont jamais été restaurées. Moi, je les ai toujours connues comme ça, un éclat des couleurs absolument prodigieux. Alors, c'est des techniciens incroyables. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut dire, c'est que beaucoup de ces artistes-là, on est en 1434, l'imprimerie c'est 16 ans plus tard, mais si vous voulez, il y a déjà l'idée, beaucoup étaient travaillés dans des miniaturistes. Donc si vous voulez, la précision aussi, le travail, les outils, les pinceaux en poil de martre Kolinsky, le travail à la loupe, des choses comme ça, avec à la loupe pour peindre en petit, c'est des choses qui faisaient partie aussi de leur culture et de leur tradition. Mais il y a effectivement... Tous ces peintres-là vont se retrouver, les peintres de manuscrits vont se retrouver un peu au chômage, hein, avec l'imprimerie. Et donc pas mal d'entre eux vont investir la peinture sur panneaux de bois, hein, c'est pas des toiles, ce sont des panneaux de bois. Alors là aussi, bon, il s'appelle Van Eyck, ça veut dire du chêne, mais la plupart du temps, c'est des bois effectivement très très solides, imputrescibles, alors du châtaignier, du chêne, des choses comme ça, qui sont huilés, qui sont assemblés de façon très très rigolote pour pas que ça joue. Imaginez votre peinture avec un bois qui se cambre, tout s'éclate, c'est un peu bête. Donc, il y a ça. Mais, ce qui est très clair, c'est que... alors, voilà, en fait, la structure géométrique. Pendant longtemps, j'avais un peu au pif, je pensais qu'il y avait un seul point de fuite qui était vraiment au milieu du miroir. On est en 1434, c'est-à-dire que Van Eyck vraisemblablement n'est pas allé en Italie, donc les théories sur la perspective ne sont pas encore tout à fait établies par Alberti et ou Brunelleschi, donc si vous voulez. Par contre, on voit très bien qu'il tend à unifier le point de fuite. En fait, il y en a deux, hein, il y a deux points de fuite, voire trois. Il y a un au-dessus, un en dessous et un au milieu du miroir. Comme s'il y avait un point de fuite pour le haut, un point de fuite pour le bas, puis ils se réunissaient aussi dans le miroir. Donc, c'est pensé tout ça. C'est pour ça que je le mets en comparaison aussi de l'Annonciation. Là où c'est aussi assez clair, c'est que Van Eyck transpose la figure, on va dire, canonique de l'Annonciation, c'est-à-dire que l'ange qui vient annoncer à Marie qu'elle est enceinte du Dieu, etc. Là, vous avez encore une scène de femme enceinte, mais cette fois-ci, c'est plus du tout pour le divin, c'est dans le cadre religieux, mais c'est pour la prospérité, c'est aussi la naissance qui va en même temps pérenniser l'union de ce couple. Hein, donc cette idée d'un couple aussi uni par la religion, par l'espace, par la richesse, par le lieu, etc., par l'intimité, par une connivence, hein, il se tient la main, etc., lui semble aussi la protéger, elle protège aussi son fils, vous avez tout un regard ici qui est assez évident, et ils sont réunis par, y compris, ben, une dimension sociale, c'est-à-dire que le fait que le peintre témoigne, attendez, si je zoome ici, on voit qu'il y a d'autres personnes. Alors, on devine, et alors ça c'est assez compliqué, on pense que le personnage bleu n'est pas le peintre, mais que le peintre est derrière, et que le personnage bleu c'est sans doute ben, une sorte de bénédiction, un prêtre, etc. Donc, celui qui est vraiment... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette inversion. Tout d'un coup, on voit presque mieux la lumière extérieure dans le miroir. Ça aussi, c'est un jeu absolument prodigieux. Alors, Van Eyck, c'est vraiment... Alors, autre chose, regardez. Regardez même le balai de bois. Hein, les moulures qui sont derrière. Et puis, alors, le visage. Le visage, la délicatesse, c'est que... Le visage n'est pas juste un volume, c'est aussi quelque chose dans lequel vous avez aussi le sang, le rouge, les joues. Vous avez les paupières légèrement rougies, la brillance sur l'iris, les pupilles, les lèvres, la carnation des lèvres, les effets d'ombre et de lumière par réverbération sur le bas du menton, etc., sont d'une... Alors attendez, on se zoome, hein. Tu vois, même cet ordinateur qui ne zoome pas, parce que là j'ai zoomé au maximum. Vous avez donc aussi un intérêt pour le corps humain, pour la chair, pour la peau. Alors on n'est pas dans une émotion, mais il y a vraiment une célébration aussi eh bien, de la subtilité, de la finesse du corps. Hein. Donc avec les gens comme Van Eyck, on se rapproche cette fois-ci, tout en étant dans un idéal, on se rapproche en même temps de la réalité, des textures, des matières. Alors tout ça est... glorifié, unifié par la lumière. Hein. Ça, c'est très net. Alors, vous avez vu la dentelle, hein, aussi, les effets de profondeur et de reflet. Donc, c'est absolument prodigieux, et comme technique, et y compris comme vision. ce qui est très clair aussi, c'est comment unifier toute cette diversité. Toute la diversité, texture, matière, nature des choses, nature des personnes représentées, tout cela, dans un monde en même temps parfaitement cohérent, doux, sans contraste violent. C'est une lumière du jour, mais sans éclat, sans ombre trop contrastée, qui ne gâche pas les couleurs, on pourrait dire sans contre-jour, et sans reflet excessif. Alors, de ce point de vue-là, c'est aussi absolument remarquable. Vous avez des choses, alors une seule bougie qui brûle et pas les autres, alors pourquoi ? Là aussi, il y a peut-être des éléments, on va dire, symboliques, qui sont sans doute un peu cachés. Il y a eu des théories sur les symboles cachés, par exemple les oranges, pommes d'amour, normalement, qui sont ici, ou qu'on verra plus tard, qui sont aussi peut-être le signe du voyage dans le lointain, parce que les oranges, c'est aussi le commerce peut-être avec le sud. Est-ce que c'est un lien avec l'Espagne qui domine la Flandre à cette époque-là ? Une sorte de clin d'œil ou de présence de l'orange qui montre, je ne sais pas. Après, on aura Guillaume d'Orange, je ne sais pas s'il y a des liens à ça, mais toujours est-il que c'est clair. Juste un petit truc en passant, si vous voulez voir la chambre des époux Arnolfini ou approchant, vous pouvez presque la visiter au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez ce musée qui est absolument génial, c'est au Louvre, rue de Rivoli. Il y a des reconstitutions de pièces et de meubles depuis le 14e, 15e siècle jusqu'au 21e siècle. Et vous voyagez dans le temps et dans l'espace en voyant presque de chambres, de pièces en pièces. Et il y a une pièce qui reconstitue quasiment la pièce des époux Arnolfini, ou en tout cas l'époque. Alors ce que l'on voit aussi, c'est que la richesse, là, on n'est pas dans, apparemment, regardez, on n'est pas dans un palais. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on est dans une sorte de norme. On a l'impression qu'ils sont à l'étage même, on a un plancher, un tapis riche, vous avez des coffres, mais au mur, c'est un enduit, c'est assez simple. Donc c'est assez drôle de voir aussi une richesse prodigieuse, mais en même temps concentrée sur certains éléments. Alors, les époux Arnolfini, quelques détails, donc voilà celui-ci, alors l'écriture prodigieuse. Et alors là, on peut zoomer un petit peu, oui. On voit qu'il s'agit effectivement des scènes de la Passion, et des scènes religieuses, ça c'est le baiser de Judas, ça c'est je sais pas quoi, ça c'est la flagellation, portement de la croix, crucifixion, résurrection, mise au tombeau, Jésus au limbe, etc., etc. Donc vous avez cela, et là on voit l'intérieur, on voit même les oranges, etc. Et le lustre. Alors le lustre, une chose, je crois que je l'ai en détail ici, ça c'est la signature, voilà, le lustre en détail ici, c'est un peu l'équivalent des mazzocchio des tors, là, dont je vous ai parlé la dernière fois, de Uccello, qui est contemporain, c'est peut-être, ça aussi c'est un morceau de bravoure en perspective, parce que, déjà, une ellipse en perspective, plus avec ces figures rayonnantes qui sont toutes ouvragées, conserver des proportions. Et la justesse du dessin et des volumes là-dessus, plus renforcée avec ombre et lumière, reflet, ombre portée. Je vous dis pas, vous voyez bien que c'est aussi une prouesse technique, et de lumière et d'observation. Ce qui est aussi notable dans cette peinture, c'est la préservation justement de la couleur aussi. La couleur, notamment la partie droite, les verts et les rouges, il y a des gammes extraordinaires. Et ce que je vous disais, c'est que l'ombre, même bien avant Monet et les impressionnistes, l'ombre n'est pas sombre. L'ombre, c'est encore de la couleur. Il n'a pas traité l'ombre par du noir. Ce sont des... Bon, un petit peu, on va dire, tout à fait à droite, mais pas là. Alors, ceci dit, vous voyez aussi ce que vous voyez la dernière fois, c'est la lumière vient de gauche, et l'ombre est à droite. Toujours ce sens de lecture, un petit peu, que là, qui est encore plus justifié par la signature. Alors, autour de cela, bon, on peut en parler longtemps. Alors, la date, ici, donc en latin. Alors, l'écriture aussi, parfaitement ouvragée, ça c'est clair. Et puis, alors, j'ai des détails que l'on peut les regarder. Alors, la perle de verre, etc. Alors, cette peinture n'est pas seule, on est dans son histoire. Alors, je vais vous présenter cette idée un peu des portraits doubles. Les portraits doubles, alors déjà, je vais faire trois types de portraits doubles. Alors, c'est pas une catégorie d'histoire de l'art, mais c'est moi pour qu'on voit un petit peu. Les portraits doubles religieux, portraits doubles humains divins, et les portraits doubles couples, donc profanes. Puis on verra aussi, un des enjeux et qui est intéressant dans cette peinture flamande, c'est un petit peu aussi la naissance de la nature morte. Mais on verra que la nature morte, elle est, en fait, elle est dans les détails. Ce n'est pas le sujet, mais vous avez comme des peintures dans la peinture de façon assez claire. Alors, à propos des portraits doubles, alors les portraits doubles religieux, c'est assez classique. Alors, dans les portraits doubles de la tradition religieuse, justement, alors, j'en parle parce que j'ai déjà pas mal parlé des statues couples et de tout ce qui était masculin-féminin. Et vous avez donc aussi, dans les époux Arnolfini, l'idée de mettre, et ils sont quand même à égalité, peut-être pas dans les fonctions, mais à égalité dans la représentation. Et donc, si vous voulez, vous avez quand même l'idée que la société, elle est fondée, elle est construite sur une égalité d'importance. Il n'y a pas de hiérarchie, en fait. Après, on peut penser, évidemment, ça fait un peu... Ça va fonctionner pendant des centaines d'années, l'idée que l'homme est du côté de la vie extérieure et la femme de l'intérieur, mais c'est montré comme sans hiérarchie. Alors cette idée-là, c'est quand même une réhabilitation très très lente et très très progressive d'une figure féminine. Alors, dans les peintures religieuses, le portrait couple le plus, qui soit pas divin, mais qui soit quand même religieux, c'est Adam et Ève. Alors, un des plus célèbres portrait couple qui soit représenté cette fois-ci non plus comme des figures uniquement divines mais à la fois humaines et divines, c'est la peinture de Masaccio. Masaccio, c'est celui qui a fait la peinture que j'ai présentée la dernière fois, le crucifix dans la niche, l'église Santa Maria Novella. Souvenez-vous, il y avait des hiérarchies, Dieu, le Père, le Fils, Marie et Jean, et les donateurs avec le squelette représenté en bas, en perspective. Ben, Masaccio, il se trouve qu'il est mort assez jeune, donc il n'a pas fait d'autres peintures. Mais une de ses peintures les plus célèbres, c'est celle d'Adam et Ève ici, chassés du paradis. C'est une chapelle de Florence, chapelle Brancacci, Brancacci, qui est de l'autre côté de l'Arno. Si vous êtes à Florence, il y a tout ce dont on parle qui est à peu près dans le centre. Si vous traversez le fleuve, vous avez cette chapelle dans une église, Brancacci, et tout est peint notamment par Masaccio. Et ce qui est très connu, c'est Adam et Ève, mais surtout quand ils sont chassés du paradis. Alors, pour une raison importante, c'est qu'il y a des ombres au sol. Les ombres au sol...
Elles sont acceptées dans les chapelles.
Ah ben, oui, là, c'est même au cœur du... Et ils sont dans un désespoir. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez effectivement une humanité projetée, alors cette fois-ci, projetée dans la véritable lumière. Et la véritable lumière, c'est le vrai monde. C'est plus un monde divin, c'est plus une lumière théorique, c'est une vraie lumière, donc ils sont dans l'espace et dans le temps. Et la souffrance, elle est d'être projetée dans l'espace et dans le temps, de tomber au sol. Hein, l'idée de la gravité, c'est de tomber au sol, gravitation, gravité, on est tombé au sol, et à partir de là, on crie, on pleure, et de ce point de vue-là, c'est comme une naissance au sens strict de l'enfant qui tombe au sol, qui est chassé du paradis utérin, qui tombe au sol, qui commence à crier, qui arrive dans l'espace et dans le temps, qui pèse, il flotte plus, il pèse. Donc c'est une sorte de... Ça va devenir presque... C'est intéressant parce que c'est un mythe religieux, mais en fait, ça a fait écho à chacun dans cette idée qu'il y aurait un moment où, effectivement, où on touche le sol et on est précipité dans la nudité. L'enfantiné, il est nu. Et donc vous avez une sorte de vision. Alors, il n'y a pas Freud encore à l'époque, hein, mais on est effectivement dans cette idée-là. Avec le cri, le pleur et la souffrance. Et il faut commencer à vivre, etc., etc. Alors là, vous avez cette idée. Alors, ils ne seront pas trop de deux pour supporter cette épreuve aussi. On n'est pas dans une solitude totale. Et quelque part, donc, le couple est quelque chose qui peut fonctionner. Hein, quelque chose qui peut fonctionner. Il va falloir qu'il... Mais l'ombre ici, c'est la première fois qu'on a au sol, dans la peinture. Alors, on est à peu près à la même période, un petit peu avant... on est 1400, je ne dirais pas les dates exactes, mais c'est quasiment contemporain de Van Eyck. Alors cette peinture donc, est célèbre hein, pour cela, alors voilà une autre version. Hein. Mais vous voyez, émotion, désespoir, nudité, ombre au sol, lumière, sortie, expulsion, effectivement, bah, comme un enfant qui naît, effectivement. Alors, un autre couple d'Adam et Ève, c'est celui de Van Eyck, dont je vous ai présenté, je crois, la dernière fois, qui est une partie du très grand polyptyque de l'agneau mystique qui est à la cathédrale Saint-Bavon à Gand. Gand, G-A-N-D. Alors, si vous allez en Flandre, vous verrez aussi souvent écrit G-H-E-N-T. hein, Ghent ou Gand, bon, c'est la même ville, évidemment, mais la cathédrale Saint-Bavon, vous avez le sublime polyptyque de l'énigme mystique, qu'on verra plusieurs fois, et dans laquelle vous avez Adam et Ève qui sont représentés d'une façon, là aussi, absolument remarquable. C'est un couple, mais là encore, quand on les voit, à part la nudité, on ne voit pas de signes religieux, on ne les voit même pas comme, si vous voulez, des figures même de tragédie. Ils sont simplement dans leur nudité, ils se cachent légèrement. Ève semble déjà presque enceinte, et c'est en ce sens-là. Si vous regardez son visage, et c'est là où c'est assez étonnant, on n'est pas très très loin non plus du visage de Madame Arnolfini. Il y a quelque chose ici qui est presque la même posture, presque le même menton. Regardez le même effet aussi sur le menton, sur la bouche, etc. Avec un léger souci. Alors là aussi, ça montre une humanité, une sensibilité très très fine à l'anatomie et à l'expression des visages. Alors qu'avant, les visages étaient un peu des codes de représentation. Là, regardez le léger froncement de sourcils, pas des sourcils, du front, qui montre un léger souci. La pomme ici, ou le fruit, etc. Et puis, alors juste un truc, hein, les cheveux, hélas, là, attendez, c'est ma peinture, c'est la reproduction qui n'est pas bonne. Là, c'est pas mieux. Je crois que j'avais une très bonne reproduction de Ève ici, peut-être. Non. Parce qu'en fait, la vraie peinture, chaque cheveu, oui, presque chaque cheveu, est pas presque un par un. Hein. Et Adam est d'une modernité complète, on dirait Jim Morrison quasiment, ou un paraco, c'est vrai. Il y a quelque chose qui est complètement hors du temps dans sa nudité, dans sa posture, dans son visage, dans son anatomie. Vous avez avec Van Eyck, là, quelque chose qui, effectivement, va bien au-delà du temps, même de sa propre culture, de son propre univers, pour aller au cœur de l'humanité avec une sensibilité. Et là, bien au-delà d'Adam et Ève, c'est vraiment le masculin et le féminin qui sont ici traités, avec en plus des coups de génie de mise en scène, puisque, attendez, vous allez voir. Alors, en fait, c'est compliqué, parce que normalement, Ève est à droite, Adam est à gauche. Et comme ils sont fermés, alors je ne sais pas pourquoi ils ont été représentés comme ça. Alors juste, vous avez aussi, évidemment, au-dessus, Caïn et Abel. C'est-à-dire que vous avez, de leur union, naîtront des drames. Hein, naîtront des drames. Alors attendez, peut-être que sur celui-ci, on voit mieux. Mais alors, non, ce que je voulais vous montrer, c'était le pied d'Adam. Le pied d'Adam qui déborde. Le pied d'Adam qui déborde. Alors en fait, Adam et Ève, quand vous voyez, le polyptyque est très grand. Hein, il fait, je ne sais pas, presque 4 mètres de long. C'est plusieurs panneaux, un polyptyque. Adam et Ève sont en hauteur, c'est donc il est une partie haute et une partie basse. Vous avez l'animal mystique, vous avez Dieu le Père, vous avez Marie, Jean, Baptiste, et puis vous avez Adam et Ève. Et ils sont en hauteur. Donc si vous voulez, vous êtes en dessous. Et vous voyez le pied d'Adam qui sort, comme si effectivement il débordait de la niche. Comme si Adam était vraiment là. Donc là, vous avez aussi une présence physique. Alors c'est plus l'ombre au sol, etc. de Adam et Ève, mais ils sont vraiment là. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont là dans leur nudité. Et ils semblent sortir d'une niche, hein, puisqu'on a effectivement l'impression que ce sont à la fois des statues qui sont tout d'un coup allumées. Et c'est l'occasion aussi de faire une anatomie parfaite. Alors que dans les manuscrits, il n'y avait pas tellement, c'était pas tellement la question. Et vous avez tout d'un coup aussi la fascination pour la vision. Hein, et ce que l'œil peut dire et peut montrer. Qu'est-ce que l'œil permet de voir ? La lumière. Tous les états de la lumière, on a chez les pouvoirs d'Alphini, c'est un enjeu prodigieux pour eux, Van Eyck. Et en même temps, il y a quelque chose qui est évident et qui est presque mystique chez Van Eyck, c'est que la peinture doit faire oublier la matière pour aller vers ce qui est le plus impalpable, c'est la lumière. C'est donc une sorte de devoir presque moral et éthique chez Van Eyck, et ça c'est vrai, c'est de maîtriser son travail jusqu'à un degré de perfection qui lui permettent d'atteindre ce qui est le plus parfait sur Terre, c'est la lumière. C'est-à-dire que c'est presque une sorte de rédemption de la part de quelqu'un comme Van Eyck, le travail de gens comme Van Eyck. Il n'y en a pas tant que ça, des Van Eyck. C'est presque une attitude mystique devant le travail et la perfection. Il s'agit d'aller atteindre ce qu'il y a de plus haut dans le monde visible, c'est les effets de la lumière et la lumière. Et donc tout ce qu'elle éclaire. Parce que la lumière est intéressante dans tout ce qu'elle met à jour au sens strict. Donc, les peaux, les textures, les détails, etc. Et donc, le peintre réussit quand ? Eh bien, justement, il a réussi à reconstituer, à représenter cette transparence, cette luminosité, cette profondeur, etc. Alors, le travail de Van Eyck, ce n'est pas juste une représentation pour s'amuser, hein, passer du temps, c'est vraiment... Alors, voilà une autre peinture religieuse de Van Eyck, c'est une annonciation qui est... Alors là, il n'a pas utilisé la perspective de façon très notable. Hein. On retrouve ici le rayon lumineux, on retrouve Marie, on retrouve Gabriel, hein, ici. Donc vous voyez encore, il y a plusieurs couples. Hein. Il y a l'Annonciation, il y a Adam et Ève, etc. Alors je vous parle de la lumière, par exemple sur les vitraux, hein, transparence, translucidité. Et c'est un truc tout bête, mais avec Van Eyck, vous avez aussi une leçon d'histoire religieuse. Vous avez les chapiteaux romans, vous avez les vitraux gothiques, l'architecture aussi gothique, et la peinture de la Renaissance et la perspective. Donc, quelque part, il nous fait aussi une sorte de leçon d'histoire. Hein. Je vous parle de joaillerie et de broderie. C'est l'occasion, par exemple, l'ange Gabriel, de lui présenter justement des vêtements qui sont des prodiges de technicité et de broderie. Et vous avez même les pavés, hein, qui sont représentés ici, David et Goliath. Vous avez Samson au-dessus. On a aussi une histoire, même dans les détails. Donc là... Vous avez quelque chose de prodigieux. L'ombre au sol, vous voyez, tabouret. Donc on est à la fois dans l'histoire et dans le réel. Marie et Gabriel sont bien là dans l'espace, mais on ne voit pas leurs pieds. Parce que eux, c'est pas comme Adam et Ève, ils ne touchent pas vraiment le sol, ils semblent flotter. Et le drapé flamand, on dit souvent que le drapé flamand, c'est une façon, c'est pour ça que dans les époux Arnolfini, ce sont bien des humains, on voit bien leurs pieds, on voit même leurs chaussures, et etc. Donc, quelque part, ils sont, eux, bien dans le monde réel. Quand vous avez des personnages sacrés, par exemple, chez Van Eyck, eh bien, notamment Marie, on ne verra pas ses pieds. Parce qu'elle, il faut qu'elle flotte au-dessus, ou alors elle est sur un tapis. Hein, et ça, c'est assez clair. Il semble un peu grand, d'ailleurs. C'est fait délibéré de la part de Van Eyck. C'est qu'à la fois, ils ont un côté très humain, mais pour montrer qu'ils ne sont pas dans le profane, eh bien, on va les représenter très, très grands par rapport à l'architecture et aux colonnes que l'on peut voir ici. Dernière chose, un petit détail, il y a plusieurs choses ici qui sont rigolotes. On a entendu dire parfois que les églises gothiques étaient peintes, etc. Quand on regarde les peintures Van Eyck, c'est la pierre à nu. Hein, donc, il y a peut-être quelques églises qui ont été peintes à un moment donné, peut-être certains porches, mais en général, elles ne sont pas peintes, les chapiteaux non plus. Hein, donc, si vous voulez... Il y a peut-être quelques panneaux peints, etc. Alors là, j'ai remarqué aussi une chose assez drôle au niveau de l'écriture dans la peinture. C'est que Gabriel avait Gracia Plena, donc Maria Gracia Plena, donc, et elle répond à l'envers, je crois. Ancilla, je crois, Ancilla Deo, je suis la fiancée de Dieu, etc. Elle est Ancilla Dea, je crois que c'est donc à l'envers. Donc c'est marrant, parce que c'est l'idée aussi du miroir ou de l'envers. Hein, c'est qu'on voit une chose, mais on pourrait la regarder. Alors, ça, c'est assez étrange. Alors, ce qui est assez étrange aussi, c'est que là, cette fois-ci, la lumière vient de la droite et l'ombre est à gauche. Donc, est-ce qu'il faut inverser la peinture ou la regarder dans un miroir? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des trucs un peu étonnants là-dessus, alors que pourtant, l'ange ici, Gabriel, est bien à gauche. Donc, il y a des choses assez étonnantes chez cette peinture. Qui est au... Alors, visiblement, c'est la partie d'un ensemble. Hein. C'est, ce format-là était certainement une partie d'un ensemble. Alors, voilà une autre annonciation de Van Eyck, qui est justement au dos du polyptyque de l'agneau mystique. C'est-à-dire que vous avez Adam et Ève, mais si vous... Et puis vous avez la partie basse. Si vous fermez la partie basse, vous avez encore Gabriel et Marie. Alors, vous avez vu, Gabriel semble très grand dans cette pièce, puisqu'il touche presque les voûtes, etc. Vous avez toujours l'idée du carrelage au sol, vous avez le point de fuite sur l'horizon, vous avez ici, etc. Alors, on trouve, et c'est pour ça que c'est assez... On l'avait vu déjà chez Frangelico dans l'Annonciation, Marie, elle était quand même du côté du lit, de la pièce, de l'intérieur, et Gabriel toujours de l'extérieur. Alors, dans les époux Arnolfini, est-ce qu'il faut conclure que l'époux est du côté de l'ange? Quand même pas. Hein, elle n'est quand même pas Marie, mais vous avez quand même cette partition... Hein, qui quand même attribue très clairement, toujours aux figures féminines, le monde de l'intérieur. Alors juste une chose, ça va durer très longtemps, je pense qu'on est enfin en train de sortir de cette question-là, mais par exemple si vous regardez les constructivistes russes, ou même le Bauhaus en Allemagne dans les années 20-30, toutes celles qui ont inventé, ont conçu les tissus, les textiles, et le mobilier, et les objets, en fait ceux qui ont fait naître le design, on a même été des noms d'hommes, mais c'est presque toutes des femmes. Donc elles étaient, c'est un créneau dans lequel elles étaient en gros un petit peu cantonnées, et une autre partie, que ce soit Sonia Delaunay, ne serait-ce que pour les robes, ou Marianne Brandt, ou etc., ou l'associé de Le Corbusier, Charlotte Perriand, par exemple, hein, qui est surtout connue aussi pour ses mobiliers, ses meubles, etc., pendant des siècles. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que ça devienne le design quelque chose d'important. Et encore, les noms même de ces femmes-là ne sont connus que maintenant. Moi, ça fait jamais que 10 ans que je connais les noms de ces femmes designeuses très importantes du Bauhaus. Très longtemps, on ne retenait que le nom de leur mari, qui eux étaient architectes, peintres, étaient en gros dans le grand œuvre de l'extérieur. Et elle était un peu oubliée et cantonnée. Sauf que maintenant, l'importance reconnue du design, du textile, de la mode, etc., des tissus, des matériaux, fait qu'on a un retour en postérieur, on est en train de revenir. N'empêche que c'est une partition des espaces dédiés qui est très très ancienne et qui remonte à loin qu'on retrouve ici. Alors ce qui est aussi remarquable dans cette peinture, c'est l'unité spatiale et en même temps des ouvertures avec plusieurs niches ici, une ouverture, deux ouvertures, trois ouvertures, quatre ouvertures, hein, même ouverture à droite, ouverture à gauche. L'idée aussi très subtile, c'est que si on est dans une boîte, on étouffe, donc il faut être à la fois ici et ailleurs. Parce qu'on est aussi dans de l'humain et du divin, donc il faut être dans un espace bien réel et en même temps voir loin, puisque l'enjeu c'est quand même de reconstruire le monde et de voir loin, de se projeter. La perspective, c'est vraiment au sens strict, perspectiver, je ne sais pas comment dire en latin, en allemand c'est durchsehen, c'est voir à travers, donc les notions de transparence et de voir loin, sont associés à la perspective, mais y compris à la peinture à l'huile, ces notions de transparence. Cette idée que, justement, on n'a pas l'impression d'avoir un panneau, mais au contraire, une béance, une trouée, avec un premier plan et un lointain, comme c'est le cas ici. Ce qui est génial aussi dans cette œuvre-là, qui est au dos, hein, c'est qu'on est à la fois en couleur, parce que c'est pas ce qu'on appelle une grisaille, il y a des éléments de couleur, un peu de vert, un peu de rouge, un peu de bleu, mais on a globalement une sorte de camailleux de brun, hein, d'ocre, qui est ici. Puis on a des écritures aussi. Alors, je viens de réaliser que si ça se trouve, ben là encore c'est à l'envers. Là encore c'est à l'envers. Et voici la fiancée de Dieu, Ancilla Dio, et encore Ave Maria, Gracia Plena, etc. Alors, je continue. Ben voilà. Vous savez, je viens de réaliser, je n'avais jamais réalisé que c'était à l'envers. Donc c'est, alors ça aussi, c'est cette idée aussi de réunir finalement le langage et très, l'écriture, c'est quelque chose de très relatif, puisque ça peut être vu à l'envers. Alors, un peintre qui est juste avant Van Eyck, c'est Robert Campin, C-A-M-P-I-N, qu'on appelle le maître de la flémale. Vous verrez ça parfois, F-L-E-M-A-2-L-E, le maître de la flémale, ou Robert Campin, Robert, bon, hein, Campin, C-A-M-P-I-N. Là, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des maladresses de perspective. Si je mettais toutes les lignes de fuite, le carrelage n'est pas du tout proportionné. Il n'y a pas de réduction des points de distance. Vous avez aussi des éléments qui ne convergent pas réellement. Par contre, on retrouve chez Robert Campin l'idée. Alors, cette fois-ci, c'est un couple humain divin, c'est Marie et l'enfant. Marie et l'enfant, ça reste quand même aussi une figure double, très importante. Mais Marie représentée ici, on dirait pas que c'est Marie. À la limite, rien ne l'indique, si ce n'est justement des éléments cachés ou déguisés, qu'on va appeler la symbolique. Par exemple, le pare-feu, qui ici, tout à coup, prend la forme, tout à coup, comme une auréole, et il y a le feu derrière. C'est qu'en même temps, il y a la lumière et derrière, hein, c'est le pare-feu, et donc, quelque part, il est derrière cette figure de rotin ou d'osier, qui est un pare-feu, et qui, en même temps, lui fait comme une auréole. Elle nourrit ici Jésus, et effectivement, on voit au loin, ben, une sorte de cité promise, ordonnée, dans laquelle il y a une église. C'est-à-dire que vous avez, et encore intérieur, extérieur, la femme du côté de l'intérieur, on va retrouver tissu, couleur, le livre, le calice. Alors, petit signe aussi tout bête, on parlait l'autre fois des femmes et des livres, Marie est presque toujours représentée avec un livre. Donc si vous voulez, quand les gens, les hommes et les femmes voient Marie qui lit les livres, on peut aussi imaginer que c'est une activité féminine, tout à fait licite que de livres. Il y a des travaux de couture qu'on va voir parfois, elle a un ouvrage, mais elle lit aussi. Donc on peut très bien imaginer, c'est pour ça que je vous parlais de Christine de Pizan, que vous avez une multitude de femmes qui sont extrêmement lettrées hein, et qui lisent, puisque leur modèle, la référence, c'est Marie. Elle est presque toujours avec un bouquin, etc., et un livre avec la page, etc. Donc, c'est aussi important. Ce qu'on voit, par contre, dans les représentations de l'enfant, c'est que, ça, c'est pas hasard, c'est que c'est très difficile de représenter un bébé, déjà. Si vous avez essayé de ne pas nous dessiner des enfants, des petits-enfants, c'est assez difficile, parce qu'il y a très peu de traits, hein, tout est doux et en rondeur, estompé. Or, la peinture flamande, elle est essentiellement... elle est construite beaucoup par du dessin, par des lignes, par des structures comme ça, assez rigides. Hein. On dit parfois que c'est un peu sec. Les Italiens trouvaient que c'était un art ligneux. C'est des lignes, et sec aussi, dur comme du bois. C'est ce que disait Léonard de Vinci en italien. Legno, c'est le bois. Legno, ligneux, c'est assez proche. Le bois aussi, parce qu'il y a des lignes, donc c'est un peu dur. C'est un dessin un peu dur. Et vous avez quelque chose très graphique qui ne se prête pas tellement au bébé. Il y a aussi une autre raison, c'est que le statut du bébé... il n'est pas très établi. Hein. D'abord, il meurt très souvent en bas âge, donc on n'investit pas beaucoup l'enfant, d'un point de vue esthétique, même affectif, etc. Et vous avez aussi quelque chose qui est encore plus étonnant, qui va durer plusieurs siècles, c'est l'idée que Jésus enfant, c'est, pour lui, c'est une galère. Vous imaginez, on est obligé de changer les couches de Dieu. Ben, c'est vrai. Il crie, vous la tétez. Non, mais c'est vrai. Donc c'est l'état le plus bas qu'un dieu puisse avoir, c'est d'être un enfant. C'est être un enfant parce qu'il est complètement dépendant, il est totalement impuissant, c'est vraiment un petit truc de rien du tout. Donc vous avez l'idée que devenir enfant, c'est vraiment atteindre un des niveaux les plus bas qui soit sur Terre, pour un humain, c'est d'être enfant. Par contre, il faut pousser, il faut grandir, etc. Mais tant qu'il est bébé, alors, c'est pas le bébé mignon, c'est alors, en même temps, c'est une promesse, mais c'est lamentable d'être un bébé, hein. Donc, si vous voulez, il est... Alors, c'est ambigu. Parfois, on voit des enfants qui sont mal fichus, mal foutus, etc. Et on ne sait pas très bien qu'en faire. Et vous avez même certaines mères à l'enfant qui sont un peu encombrées par leur bébé, leur progéniture. Alors, par contre, ce qui est clair, c'est que Robert Campin, le maître de la Flémalle, est un des premiers peintres flamands, un peu avant Van Dyck, à avoir autant d'intérêt et d'attention sur les matériaux et la lumière. Même si la perspective est un petit peu de traviole, texture, lumière, matière sont ici représentées et un enjeu très, très fort. Alors voilà d'autres peintures de Campin. Celle-ci, je crois, est à New York. Vous avez encore Marie en train de lire. On voit, regardez son genou, ses genoux qui pointent à travers le drapé avec une lumière prodigieuse. On voit aussi le pare-feu, le foyer, le banc, la fenêtre. Et on voit, alors, on se rend compte que chez les Italiens, il y avait une structure, perspective, gauche, droite, etc. Chez les Flamands, il y a une autre logique, c'est plus la pièce, la chambre, le lit, avec des attributs que l'on voit souvent, le lys, la pureté, la bougie qui va s'allumer sans doute quand le dieu sera né. Vous avez un certain nombre d'éléments, les lions ici, souvent symbole de puissance. Alors, chose assez étrange aussi, on trouve très souvent dans les trônes de Marie les lions. Et si vous vous souvenez bien, une des figures qu'on trouvait à Çatalhöyük en Turquie, 8000 ans avant Jésus-Christ, vous avez cette figure féminine toute puissante qui trônait et qui dominait des lions. On va trouver ensuite chez Cybèle, chez Perséphone, etc. Cybèle, c'est ça. Et vous avez sous cette figure féminine qui domine aussi les forces brutes, les animaux sauvages, etc. Et est-ce que ce sont aussi des réminiscences d'une sorte de divinité féminine archaïque? C'est très vraisemblable. De la même manière que la Vierge à l'enfant, vous savez que c'est aussi une réminiscence directe de Vierge à l'enfant, que Isis et Horus, et même beaucoup plus avant, puisqu'on trouve Hathor, et on trouve encore avant des figures à l'enfant, des déesses à l'enfant, au néolithique, mésolithique, néolithique, quasiment. Alors vous avez donc, vous voyez que Robert Campin ici, au niveau de la perspective, c'est pas tout à fait au point. Hein. Si on prolonge les lignes de fuite, on va trouver, comme je vous l'ai dit, il a un point de fuite, mais il n'est pas dans un lieu particulier. Donc c'est unifié par le point de fuite, mais c'est pas sur la fenêtre, c'est pas entre Marie et Gabriel, c'est pas du côté du... Regardez d'ailleurs le petit Saint-Esprit qui arrive ici. Qui est dans un petit coin, qui arrive par la fenêtre. Par contre, les états de la lumière, l'ombre et la lumière, ce qui est assez touchant avec Robert Campin, ce sont justement ces sortes de maladresses et en même temps finesse, etc. Alors par contre, ceux des visages, on va dire, plus stéréotypés que ceux de Van Eyck.
Il est de quelle nationalité ?
Ah bah lui, Robert Campin, maître de la flémale, c'est aussi un flamand.
C'est un flamand.
Alors la peinture flamande, elle est repérable à plusieurs. D'abord les visages, très ovales.
Hein,
avec les drapés qui sont des drapés un peu cassés. C'est des drapés durs. Les drapés italiens vont être beaucoup plus souples, beaucoup, etc. Les drapés flamands, alors, il y a des théories un petit peu aussi sur les habits, évidemment, qui sont très intéressants. D'abord, il y a l'idée que la richesse vient des tissus et des habits qui sont... il faut valoriser les richesses locales. Donc, vous voyez, les tissus brodés, c'est extraordinairement riche, c'est important. Il y a aussi quelque chose qui est tout bête, c'est qu'on est en Flandre, il fait moins chaud qu'en Italie, donc les vêtements, il y en a plus. En Italie, bon, une petite...
On le voit à travers la fenêtre, les nuages.
Voilà. Alors, les nuages, il y a une dimension symbolique. C'est que le nuage dans le ciel bleu, il est comme Marie qui vient rafraîchir l'aridité de la terre. Le nuage apportant un peu d'eau va rafraîchir l'aridité de la terre. Donc, si vous avez un petit nuage dans un ciel bleu, assez souvent, c'est une manière métaphorique, comme le lys, qui est effectivement un symbole de pureté, etc. Vous avez l'idée que elle amène quelque chose, puisque la terre est sèche, elle ne dit plus rien, et Jésus arrivant sur terre va permettre, ou soit jardiner, soit tout ce qu'on veut mettre en ordre, ou permettre que les choses poussent. Alors le linge, hein, alors, ce qui est drôle avec Campin, alors voilà, c'est que quand même, vous avez aussi quelque chose qui va nous ramener aux époux Arnolfini, c'est que souvent, chez les Flamands, on verra aussi chez les Italiens, des peintures religieuses et des peintures comme ça, qui sont des peintures très très chères, sont payées, notamment en Flandre, et parfois en Italie, dans les cités, par des couples très très riches. Des bourgeois très riches, et qui en même temps se font connaître et prouvent. En même temps, c'est un peu les agences de notation standards pour je sais pas quoi. C'est que si vous êtes capable de payer une peinture, ça veut dire que vous avez de la fortune. Donc, vous êtes un commerçant, des hommes d'affaires fiables. Des hommes, des femmes d'affaires fiables. Vous êtes une richesse concernée. Donc, c'est pas pour ça qu'ils le font, mais investir son argent dans une peinture, tout le monde le sait, vous avez donné une peinture extraordinaire à l'église, vous vous faites représenter, ça va, ils sont solvables. Donc si vous voulez, ce sont des valeurs sûres au niveau économique et financier. Alors c'est un des aspects. Vous avez aussi l'aspect qui n'est pas inintéressant, c'est qu'ils se font représenter tous les deux à genoux, et vraisemblablement, c'est pour ça, vraisemblablement, le peintre s'est représenté ici, Robert Campin. Donc témoin à la fois de cette vision-là, et en même temps proche de ces deux époux. Et ici, vous avez alors Joseph, hein, Joseph sans doute.
C'est
la sœur. Voilà, enfin, lui, il bosse dans son coin. Parce qu'il y a des trous, des petits trous, encore des petits trous, des trous de première classe, etc. Alors, ça, vous avez donc un triptyque. Hein. Alors là, vous avez une autre. C'est toujours Robert Campin, donc c'est différent, c'est une autre annonciation. Vous voyez bien que c'est pas tout à fait la même chose que les peintres italiens. Hein. Et on a à peu près toujours les mêmes éléments, le lion, etc., le lys. Alors là, par contre, c'est une fenêtre ouverte sur rien. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est une peinture. Alors, ça, c'est de... Attendez, parce que là... De Van der Weyden. Ici, vous avez le nom Roger Van der Weyden. W-E-Y-D-E-N. Alors, il est contemporain quasiment de Van Eyck. Hein. 1399-1464. Roger Van der Weyden, c'est un très grand peintre flamand. Quasiment l'égal de Van Eyck au niveau de la technique, de la pensée, etc. Vous avez d'ailleurs un jugement dernier qui est à Beaune, à l'hospice de Beaune en France, hein, puisque comme les Flamands étaient ducs de Bourgogne, et Rollin, par exemple, le chancelier Rollin, c'était un chancelier français, si vous voulez, mais qui était lié au duc flamand, duc de Flandre, donc si vous voulez, c'est normal, donc vous avez donc des peintures flamandes, vous en avez dans certaines villes de Bourgogne, riches, etc. Alors là, vous avez encore, regardez, c'est assez étonnant, parce que vous avez le même lit que dans les époux Arnolfini. Hein, vous avez un visage qui est assez proche. Alors, un visage, une beauté flamande, hein, c'est un visage un peu ovale, très, etc., qui sont très clairement. Alors, toujours le livre, avec les éléments, et qui est pris de répartition. L'ange du côté du ciel, cette fois-ci, on retrouve le banc, les tissus, les tapis, alors là, les broderies. Là, c'est, vous voyez le pixel, hein, mais normalement, on ne voit pas de pixel. Alors, juste une chose aussi, excusez-moi, je zoome, on retrouve le coup du lustre, on retrouve ici les transparences et les lumières sur la carafe, les oranges, donc si vous voulez, il y a aussi des éléments qui sont des standards, qu'on va retrouver, recombinés. Van Eyck n'invente pas tout, hein, mais il inscrit le couple Arnolfini dans une tradition aussi de représentation qui est clairement établie ici. Alors là, vous voyez, par contre, Van der Weyden, là, il y a trois points de fuite. Donc, il y en a un, là, pour Gabriel, il y en a un pour le lit, il y en a un pour les petits meubles à côté, donc là, c'est pas encore unifié d'un point de vue totalement théorique. Vous voyez que c'est... Alors, ils sont contemporains.
Hein, c'est marrant,
Paris, noir. Oui, effectivement, ça c'est vrai, tiens, j'ai même pas...
Oui,
elle est toujours en bleu marial, ce qui fait dire d'ailleurs que le drapeau européen, c'est dire à Jean-Luc Mélenchon. Mais il n'a pas complètement tort. Hein. Que la couronne d'étoiles et le bleu marial, c'est effectivement les couleurs ensuite de la tradition de Marie, etc. Alors voilà encore une autre. Hein. Cette fois-ci, c'est toujours de Robert Campin. Donc vous voyez aussi, vous avez des idées. Alors cette fois-ci, vous avez quelque chose d'ambigu. Vous avez Jean-Baptiste ici avec l'agneau. Vous avez ici un moine donateur. Qui a payé ou qui a fait payer ça. Vous avez ici Marie en train de lire, toujours avec le feu, le foyer, etc., et la fenêtre. Et toujours, regardez ici, hein, dans les détails, la girafe. Mais vous avez aussi, dans cette peinture, quelque chose qui est intéressant, c'est le miroir. Alors, je reviendrai sur le thème du miroir et de la fenêtre, etc., plus tard. Alors, par contre, vous avez vu, mon document est de mauvaise qualité quand on veut zoomer. Là, vous avez d'autres peintures qui sont assez contemporaines aussi et qui inscrivent la féminité, même l'histoire de Marie, qui devient aussi un personnage presque autonome. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est que toutes ces annonciations, toutes ces figures-là de Marie, il y a une sorte d'obsession pour la figure mariale. Il y avait une obsession pour la figure de Notre-Dame, parce que toutes les cathédrales, c'est Notre-Dame, c'est pas Jésus en croix, donc on est quelque chose qui, en fait, s'émancipe sans le dire, mais du christianisme d'origine, avec le Christ martyr en croix, etc. On arrive vers des choses qui sont beaucoup plus du côté du vivant, beaucoup plus du côté de l'intime, un rééquilibrage avec une sorte de divinité féminine, y compris qui commence à avoir sa propre généalogie, sa propre vie. Parce que là, il s'agit de la naissance de Marie. C'est pas Marie qui accouche de Jésus, le petit bébé que vous voyez, c'est Marie. Hein, et ici, c'est Anne. Donc, vous avez une sorte de constitution d'une branche féminine. Et là, ce qui est intéressant dans cette naissance de Marie, eh bien, c'est que vous n'avez plus de figure masculine. Plus de figure masculine. On est dans un gynécée pur. Vous avez effectivement l'extérieur, mais ce monde de femmes fonctionne très bien aussi, presque seul, hein, et avec leur système. Alors, on trouve le lit, le baldaquin, la cheminée, le foyer, tous ces éléments-là. On retrouve tous les tissus textiles, etc. Et puis le principe, la naissance, hein, et la petite Marie, ici, avec la lumière et l'ombre qui inscrivent aussi dans l'espace réel. Donc, alors, on n'est plus tout à fait dans le couple. Bon, alors, ici, les polyptiques et les triptyques, alors là, vous avez des choses qui deviennent une sorte de redoublement de la dualité, puisque vous avez... ici quelque chose qui est une adoration des bergers, mais là vous avez des figures couples, vous avez les donateurs à gauche et à droite, vous avez un couple de saints, puis vous avez un couple de patrons et patronnes, couple de saints, donc sans doute Jérôme et peut-être Saint-Jacques, je ne sais pas, ici c'est Sainte-Barbe ou Sainte-Catherine, enfin des saintes un petit peu qui sont les saintes patronnes, vous avez ici la mère et sa fille, et vous avez le père et ses fils, hein, qui sont là aussi comme des sortes de redoublements. Alors, par rapport à la naissance, vous avez quand même Joseph et Marie, hein, ici l'adoration des bergers. Donc cette idée du... On voit que la dualité double se prolifère quelque part, avec toujours un espace complexe. Alors ça, là aussi c'est exactement dans le même esprit. Là, la prolifération du double et du couple, hein, puisqu'on va retrouver ici... Alors attention, ça, j'ai découvert ça tout récemment... C'est un polyptyque qui est près de Lyon. Si vous connaissez Lyon, moi je ne connais pas. Est-ce que vous connaissez Ambirlé? C'est une petite église près de Lyon, dans laquelle vous avez, alors donc justement on est sur les routes de Bourgogne, vous avez un polyptyque absolument extraordinaire. Le centre est en bois polychrome sculpté, donc vous avez effectivement un classique. Mais sur les côtés, à droite et à gauche, vous avez les donateurs, les saints patrons qui sont ici à droite et à gauche. Alors, apparemment donateurs en double, c'est-à-dire que vous avez deux donateurs hommes, deux donateurs femmes. Alors, je ne connais pas encore l'histoire, j'ai découvert ça très récemment. C'est une petite église au nord-ouest de Lyon, en Bierle, A-M-B-I-E-R-L-E. Je ne connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça l'autre jour. Et c'est absolument prodigieux. Et là encore, vous avez alors, les donateurs associés à Marie, associés à Joseph, associés aux saints, etc. On les voit très bien. Alors, attendez, je vais zoomer. Hein. Donc, vous avez quand même les époux Arnolfini, mais en fait, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de couples qui sont représentés en tant que donateurs. En tant que donateurs, ils se font représenter dans le même espace aussi que les personnages divins. Alors ça, c'est quand même assez gonflé.
Il paye cher.
Alors, il paye très très cher cette espèce de publicité, de sponsoring, mais c'est de l'ordre. Hein. Alors, vous avez les portraits doubles, justement, puisqu'on arrive humain-divin, justement. Là, on a vu que les donateurs étaient vraiment à part, mais je vous l'ai montré l'autre fois, c'est là ou pas, oui ?
Non.
Alors, celle-ci, qui est au Louvre, c'est la Vierge au chancelier Rollin, justement. Alors, Rollin, c'est justement le duc de Bourgogne. Ça, c'est une peinture de Van Eyck. Donc, je pense que c'est Van Eyck. Donc, il y a les époux Arnolfini, mais il a plusieurs fois fait cette espèce de dualité, et comment il la représente, ça, c'est intéressant. Et vous avez ici Marie avec Jésus. Classique. Mais ce qui est, justement, pour revenir à cette question des regards, ce qui est quand même assez notable, c'est que cette fois-ci, on va dire le donateur, il n'est pas à côté, il n'est pas en dessous, il n'est pas derrière, il n'est pas caché dans un coin, il est dans la même pièce, presque en face, comme aurait pu être soit le mari, soit Gabriel. Et c'est quand même gonflé, imaginez, enfin, peut-être qu'il va nous faire le coup, imaginez un dirigeant Macron qui se fasse représenter. Alors, représenter actuellement, ça serait presque une série télévisée de 5 saisons, où il serait en train, en permanence, de discuter avec Marie... c'est plus Brigitte, ça serait Marie, etc. Une figure féminine ou divine, et il a dit qu'il était jupitérien, mais enfin, vous avez une sorte de mégalomanie hallucinante du chancelier Rollin, qui se fait représenter dans la même pièce que Marie, dans un espace contemporain, et il lui est égal en hiérarchie. De taille, il a la même taille qu'elle. Et il paye une fortune. Donc. Et en plus, Rollin, il était connu, c'était un chancelier donc, du Bourgogne, etc., très riche, hein. Je ne sais pas s'il est déjà le Beaujolais nouveau, mais pas loin. Toujours est-il que, si vous voulez, ce chancelier Rollin, puis alors on a un vrai portrait. On a un vrai portrait, sa coupe de cheveux, son âge, etc. Ses vêtements, son livre, il se à genoux. Alors comment est-ce que Van Eyck accepte de mettre dans le même espace, justement, un personnage profane et un personnage divin? C'est là où Van Eyck va jouer de la perspective d'une manière absolument géniale. Et c'est là qu'il retrouve, si vous voulez, le génie de Fra Angelico. Parce que là, on est vraiment dans la perspective. Cette peinture, elle est juste un an après les époux Arnolfini. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'il réfléchit énormément, Van Eyck. Hein. Et ben, voilà comment il fait. Voilà comment il fait de façon très subtile. C'est qu'effectivement, le point de fuite va les réunir. Ils sont dans le même espace, il y a un point de fuite. Alors là, il est rigoureux, Van Eyck. Ça, c'est, il y a un seul point de fuite. Si vous pouvez prolonger toutes les lignes de fuite des... Attendez. Là. Alors, elle est au Louvre. Hein. Donc, plus personne ne va la voir. Tout le monde est à genoux devant la Joconde en train de se rouler par terre. vous allez voir ça tranquille, il n'y a plus personne. Et alors, elle est petite. Elle, par contre, elle est assez petite. Mais alors, regardez ici la question du regard. De manière très très nette, Rollin regarde Marie, mais Marie ne le regarde pas, même Jésus l'ignore. Il ne le voit pas. Mais c'est l'exact pendant de notre regard vers l'horizon. C'est-à-dire, nous voyons l'horizon, le lointain, le point de fuite, mais évidemment, le point de fuite ne nous voit pas. On n'est rien du tout pour l'horizon. C'est-à-dire, nous voyons l'infini au loin, mais on n'est rien du point de vue de l'infini. Du point de vue... Alors, le lointain ici est très progressif, c'est qu'on va passer aussi du premier plan du carrelage au jardin. Le jardin, alors, il y a une première frontière, c'est la frontière de la pièce, puis vous avez la frontière du jardin, puis vous avez la frontière de la ville avec le pont, puis vous avez la frontière ici avec l'île des champs cultivés, puis vous avez ensuite les terres qui ne sont pas cultivables, et ensuite la terre qui n'est pas du tout maîtrisable, on arrive à l'infini, les montagnes, et l'eau, et le ciel. C'est-à-dire qu'on va progressivement d'une terre qu'on peut contrôler, qu'on peut maîtriser, mais en même temps, faut pas être prétentieux, on ne peut pas tout contrôler, il y a un moment où on s'avance vers l'infini et vers l'absolu. Et là, vous avez quelque chose ici. Eh bien, le regard de Rollin, il va vers Marie, mais si vous regardez bien, il y a quand même 3 arcades, c'est qu'en même temps, C'est comme si d'un coup, il y avait une sorte de trou noir, d'aspiration de son regard vers l'infini. C'est-à-dire que notre regard croise celui de Rolin et quelque part s'enfuit vers l'infini. Donc, ils sont dans la même pièce, mais effectivement, en fait, ils ne se croisent pas. Parce que la hiérarchie, elle n'est pas dans la taille, elle est dans la direction du regard et qui voit quoi. Alors, Rolin, lui, est bien à genoux, elle est assise, on ne voit pas ses pieds. Alors ici, on va retrouver, excusez-moi, mais le génie de Van Eyck pour les textures et les matériaux. Alors, vous savez, c'est bizarre, j'ai pas réussi à trouver une bonne reproduction avec assez de pixels pour vraiment pouvoir zoomer. Et normalement, chaque cheveu est peint un par un. Les bijoux de la couronne sont faits pareil, un par un, avec chacun sa propre lumière. Et vous avez là aussi le génie de Van Eyck, attention, c'est aussi... Ah non, c'est peut-être là. C'est de présenter, là encore, toute la culture. Attendez, normalement, on voit aussi là, les vitraux aussi. Vous avez presque l'art roman, avec les chapiteaux et les voûtes à plein cintre. Vous avez l'art gothique avec les vitraux ici. Et vous avez quelque part la tradition de la Renaissance. Il fait aussi le lien avec le passé, etc. Broderie, avec aussi ses contemporains. Tout bijoux, textus, tissus, joaillerie, etc. Et alors là, il a su justement jouer sur les regards de façon très fine. Et c'est effectivement une œuvre de ce point de vue-là exceptionnelle. Chose très drôle, c'est que Van der Weyden, qui est lui aussi est un de ses contemporains, n'utilise pas la perspective de la même manière aussi subtile. Là, vous avez encore un personnage profane, enfin profane, c'est Saint-Luc, qui est en train de faire le portrait de Marie. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont proches. Hein. Robert Campin avec Marie, etc. Vous avez des standards aussi, le trône, les sièges, le dais, la pièce, les fenêtres, le paysage, ici le jardin avec les frontières de la ville. Et vous avez aussi, là, quelque chose qui est assez émouvant, Saint-Luc en train de dessiner, si vous avez l'image dans l'image, en train de dessiner Marie, qui elle aussi... s'en fiche. Alors là, le petit Jésus, il est aux anges, il a les doigts de pied en éventail, et il rigole, ce qui montre aussi une vision très sereine de la religion. On n'est pas dans le drame, on est dans quelque chose de très humain. Et finalement, on s'écarte un petit peu d'espèce de morale ou de tragédie. Et le rapprochement comme ça des figures divines de l'humain, ça se fait dans les vêtements, dans les lieux, parce que les lieux sont totalement anachroniques, puisqu'on est dans des espaces flamands, contemporains des flamands, pas du tout les costumes aussi, les paysages, les villes. Vous avez même des paradoxes évidents, c'est que vous avez les églises dans une ville alors que Jésus est bébé, donc vous voyez, on est dans la diachronie, c'est comme ça qu'on dit, je crois quoi. Et vous avez aussi la justification de l'image et de la peinture et de l'imitation. C'est-à-dire que si Saint-Luc a peint Marie, bon, on a le droit de le faire. Si quelqu'un a fait... Si on considère qu'il y a une légende qui dit que Saint-Luc a fait un portrait de Marie, c'est que c'est licite de représenter Marie et de représenter les figures religieuses. Alors attention, parce qu'on est quand même en 1450 à peu près, 50 ou 60 ans plus tard, Luther et Calvin vont commencer à détruire toutes les peintures religieuses. Et, si vous voulez, donc vous avez l'enjeu de l'iconoclasme, il n'est pas encore actif à ce point-là, mais l'idée de justifier la représentation divine, y compris de l'amener à un réalisme à ce point poussé, alors certains peintres vont très très loin, puisqu'ils vont même inventer l'histoire de Marie, représenter bébé, enfant, tout, je ne sais pas, dans les linges, etc. Vous avez quelque chose qui va craquer, en fait. Qui va craquer, puisque les protestants vont dire, non, là, on s'écarte vraiment des originaux et des fondamentaux du christianisme. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui est un enjeu, très certainement.
Excusez-moi, oui, une fois pour le regard, là,
oui,
pas, il ne regarde pas.
Alors, oui, c'est là où il a l'impression qu'il flotte. Alors, oui. Sans doute, de la part de Van der Weyden, c'est vraisemblablement une manière de dire qu'il est inspiré. Qu'il la regarde, d'accord, il en fait portrait, mais il a une inspiration. Parce que c'est quand même un saint. Comme Saint-Luc. C'est pas juste machin, c'est Saint-Luc. Donc, il est quelque part inspiré. Alors, on retrouve la robe noire. Hein.
Et pourquoi il y a toujours deux petits personnages là, qui
Alors, justement, bonne question. Bah, c'est cette idée aussi du couple aussi, d'une sorte de dualité. Alors,
métaphoriquement, est-ce que c'est l'homme et la femme, ou ici on a l'impression d'avoir deux hommes, est-ce que cette idée justement du double, hein, du dédoublement, alors on voit ici que le point de fuite n'est pas du tout sur leurs yeux, n'a pas du tout cette dimension symbolique aussi précise que chez Van Eyck, puisqu'il est au-dessus. Alors, je verrai ça plus tard. Ça, c'est le diptyque de Martin van Nieuwenhove. Et c'est vraiment très intéressant parce que pendant longtemps, je crois qu'ils étaient séparés. Mais quand on les associe, eh bien, on voit. Alors là, les regards, c'est très clair. Ils sont dans deux panneaux différents. Mais en fait, si on fait les lignes de fuite de l'espace de l'homme, on arrive sur la bouche de Barry de façon très très claire. Hein, très très claire. Alors qu'ils sont dans deux panneaux totalement différents. C'est une façon de relier deux espaces différents. Et là, la ligne des yeux est effectivement la même. Elle est au-dessus, lui est au-dessus. De façon très claire. Alors vous avez aussi. Lui est inspiré par Saint-Martin, et puis, etc. Et elle est plutôt dans l'infini. Là, il y a un château, donc dans un monde réel. Elle est du côté d'un paysage infini. Elle est dans des visions infinies. Et vous avez un autre. Alors, je ne savais pas, mais cette fameuse peinture. Alors, attention, le document est de très mauvaise qualité, de Fouquet, justement. Hein. Vous avez celle-ci qui est à Gand, je crois, ou à Anvers, et celle-ci, je ne sais même plus où elle est. Ces deux panneaux qui sont totalement séparés, mais en fait, qui faisaient partie des mêmes. De la même peinture, et on retrouve la même structure avec l'architecture, et ils vont vers la bouche de Marie. Donc c'est assez dans les pertes. Alors ça, mais j'ai retrouvé ça l'autre jour, et en plus, ça s'appelle Diptyque de Melun. Oh, j'habite à 5 km de Melun, à côté de chez Christine de Pisan. Donc si vous voulez, alors je reviendrai la prochaine fois, j'essaierai de trouver des documents de meilleure qualité sur cette idée des portraits doubles, et la prochaine fois, on verra les portraits doubles profanes, c'est-à-dire d'hommes et de femmes non sacrés, avec des choses intéressantes, justement, dans la représentation masculin-féminin et comment ils sont ensemble. Donc, voilà. Ah si, voilà, j'ai cette photo-là, quand même, qui est un peu de meilleure qualité, voilà. Ceci, je crois que c'est une copie de ça. C'est pas l'original. Je crois que c'est une copie parce que c'est. Ça a l'air. Alors, je vais essayer de trouver, mais dur à trouver des bonnes choses. Hein. Donc, je reprendrai à peu près où j'en suis là.